que le Seigneur vous bénisse. Merci de venir à notre programme de prédication Vie d'Alliance. Je voulais bénir Dieu pour votre vie et je crois que ce matin, quelque chose est sur le
Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241-7553. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Dieu est sur le point de prendre votre vie d'une situation A, de rien, à une situation B, de tout. Tout à l'heure, on se verra. Que Dieu vous bénisse.
Josué 2. Josué 2. Vous connaissez l'histoire. À partir du verset 1, vas-y, jusqu'au verset 15. Écoutez en temps. Cette histoire, oui.
Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant: allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué au Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Amen. Amen. Oui, continue.
Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui appartiennent et que vous saurez vous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui vous concerne. Et quand l'Éternel vous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité.
Amen. C'est bon. Gloire à Dieu. Nous parlons de tirer profit des situations de crise qui se présentent à nous. Amen. Une situation de crise donc est une situation de confusion. Une situation dans laquelle notre vie ou la vie que Dieu nous a donnée prend une nouvelle direction. Mais très souvent, la direction que prend cette vie dépend de l'attitude ou de la réaction que nous avons face à la crise. Dites amen. Beaucoup dans une situation de crise ne savent pas comment se comporter, paniquent. Donc, dans la panique, prennent les mauvaises décisions. Alléluia. Dites amen. Et voyez que dans cette situation que nous venons de lire, il y avait une situation de crise. Josué, qui était le commandant en chef, qui avait bien sûr hérité ou qui avait pris la place de Moïse après sa mort, a envoyé donc des espions dans une ville qu'on appelle Jéricho pour explorer le pays afin d'attaquer le pays et de prendre le pays. Donc il y avait une situation de confusion parce qu'en son temps, le peuple avait déjà vent de ce que les Juifs étaient capables de faire. Rahab a bien précisé que nous avons eu idée de ce que Dieu a fait avec vous. Et même à entendre les exploits que Dieu a eu avec vous, nous sommes déjà tremblants en vous voyant. Donc il y avait une situation de confusion, de crise. Mais voyez que cette femme qu'on appelle Rahab, au lieu de paniquer et d'avoir la mauvaise attitude, a eu la bonne attitude. Et c'est cette attitude-là que je veux que tu aies ce matin. Parce que c'est de ton attitude que détermine, ou c'est ton attitude qui déterminera ton altitude dans la vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ton attitude qui détermine ton altitude. Ce que Dieu fera de ta vie, là où tu iras avec Dieu, dépend de la réaction que tu as dans les situations de crise qui s'opposent ou qui se présentent à toi. Malheureusement, beaucoup de gens dans les situations de crise et des situations conflictuelles font les mauvais choix. Et dans cette situation que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand je regarde les chrétiens agir, quand je regarde les chrétiens se comporter, beaucoup sont en train de poser des actes qui vont jouer contre eux demain. Je dis, on est d'abord chrétien avant d'être ce que nous sommes. Donc notre chrétienté est l'élément de base sur lequel doit s'appuyer toutes les actions que nous posons, tout ce que nous faisons, toute décision que nous prenons et toute inspiration que nous avons doit prendre appui sur notre identité chrétienne. On ne fait pas un choix parce que quelqu'un a une capacité. Non, frère, si ces capacités-là, il y en a des milliers qui ont des capacités. Mais on fait un choix parce que Dieu est quelque part. C'est ce que je veux que tu saisisses dans ce que je veux te dire ce matin. On ne fait pas de choix parce que, mais le parce que doit être lié à la volonté de Dieu. Même si quelqu'un, tu vois quelqu'un aujourd'hui, il ne peut même pas dire A, B, C, D. Dieu peut te dire, choisis cette personne-là. Frère, Dieu sait pourquoi. Frère, c'est-à-dire, les jugements de Dieu ou les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. C'est pourquoi quand vous êtes un chrétien, votre analyse doit être basée sur la capacité, même vos collaborateurs que vous choisissez dans vos bureaux, dans le travail que vous faites, est-ce que cet homme-là est un homme intègre, est un homme qui craint Dieu? Si cet élément de crainte est là, le reste, ce n'est pas la peine. Je vous ai dit toujours, et je le répète encore, la crainte de Dieu ou la fidélité est meilleure que la compétence. Un homme fidèle, un homme loyal, vaut mieux qu'un homme compétent. Un homme compétent qui n'est pas loyal, il ne m'intéresse pas. Dis amen. Amen. Voilà comment votre Dieu traite. Les hommes auraient dû dire, non, moi je veux la compétence. Dieu dit, non, moi je veux la loyauté. Donc Rahab a compris qu'elle était dans une situation de confusion. Et quand on regarde la vie de cette femme, comment la Bible décrit cette femme? La Bible dit, Rahab était une femme très belle. Et il paraît que dans la mythologie, comment on appelle, juive, Rahab faisait partie des quatre plus belles femmes du monde en son temps. Donc c'était une femme d'un certain niveau. Et la Bible également nous dit que c'était une femme d'une certaine position. Parce que la Bible décrit sa maison comme une maison qui était sur les murailles. Et en son temps, avoir une maison à soi sur les murailles était un signe de prospérité. Donc Rahab n'était pas n'importe qui. Bien qu'elle ait une vie qui ne soit pas une bonne vie, dans le sens où elle était une prostituée, alléluia, dans le sens où elle était une adoratrice d'idole, elle était idolâtre, elle ne connaissait pas Dieu, mais Rahab avait un certain niveau dans la société. Est-ce qu'on peut dire amen? Regardez la promptitude avec laquelle le roi a dépêché les envoyés vers elle. Ça aurait été quelqu'un d'anonyme dans la ville, il n'aurait pas été facile même de trouver sa maison. Mais le roi a facilement envoyé des gens parler avec elle. Ça veut dire, Rahab était importante. Mais à côté de cette importance que Rahab avait, à côté de cette carrure, de cette facilité d'entrer en contact avec les rois qu'elle avait, Rahab avait également un autre problème dans le sens où, quand tu observes les propos de Rahab, les propos de Rahab peuvent te montrer que Rahab n'était pas quelqu'un de tout à fait épanoui. Elle vivait une vie difficile. Elle était une prostituée. Donc, elle avait la situation extérieure, mais intérieurement, c'est ce qu'on appelle succès extérieur, échec intérieur. Donc, il y avait cette dualité-là qui cohabitait dans la vie de Rahab. Est-ce qu'on peut dire que mon succès extérieur, échec intérieur? Et beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation dans le sens où, quand vous les voyez assis dans les églises, ils sont tout beaux, tout le monde va bien. Mes frères, les gens ont leurs combats. Et les combats souvent que les gens ont sont des combats
difficiles, alléluia, à côté de leur carrière qui marche, à côté de leurs affaires qui marchent, à côté du fait qu'ils aient l'argent quand ils veulent, à côté du fait qu'ils soient en contact avec les autorités, voilà des gens qui vivent une vie de dualité dans le sens où ils sont bien à l'extérieur, mais ils sont complètement malmenés, laminés et complètement terrassés dans leur vie intérieure. Si tu es dans cette situation, tu es sur le point d'être restauré au nom de Jésus. Dis amen plus fort que ça. Oui, les gens ont des combats. Vous savez, dans ma position, je parle avec les gens souvent. Je sais que les gens ont des combats. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens ont des situations difficiles qui ne peuvent même pas te dire. Tu vois le frère qui est assis à côté de toi. Il faut le toucher comme ça. Touche-le. Touche un frère à côté de toi. Là, tu as touché quelqu'un. S'il te parle, tu vas pleurer là jusqu'à tu vas pas te lever. Mon frère, tu veux partager ses pleurs? Il peut t'en parler. Donc les gens souffrent. Et Rahab était dans une telle situation. Mais ce matin, quelle que soit la situation, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est capable de te délivrer. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Dis, il est capable de me délivrer. S'il a fait pour Rahab, il peut le faire pour moi. S'il a fait pour Rahab, il le fera pour moi. Qui a l'espoir? Dieu le fera pour toi. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je dis acclame le Seigneur. Alléluia. Les moments de difficulté, plusieurs noms. Lisons Job 10, verset 15. Le grand Job, qui était l'homme le plus juste en son temps sur terre, s'est retrouvé dans une situation de confusion où Job a douté. Donc, à un moment donné, quand tu doutes, c'est normal. Quand tu es confronté à la difficulté, puis tu commences à chanceler, c'est normal, tu es un homme. Tu n'es pas un bois, tu n'es pas un fer, tu es un homme. Amen. Alléluia, vas-y, lis.
Job 10, verset 15.
Oui.
Suis-je coupable?
Mm-hmm.
Malheur à moi.
Mm-hmm.
Suis-je innocent?
Oui.
Je n'ose lever la tête.
Mm-hmm.
Rassasié de honte et absorbé dans ma misère.
Amen. Voyez, Job est arrivé à une situation où Job a commencé à douter de la situation qui arrivait à sa vie. Il demande à Dieu même, est-ce que ce n'est pas moi le coupable? Est-ce que ce n'est pas à cause de moi que cette situation de crise arrive à ma vie? C'est-à-dire, il est arrivé à un point où il doutait même de son innocence. C'est-à-dire, certaines personnes, tu traverses de ces situations tellement difficiles que tu arrives à un point où tu te dis finalement, c'est moi le coupable. Ça peut ne pas être toi le coupable. Je viens de te dire ce matin que ça peut ne pas être toi le coupable. Alléluia. Alléluia. Derrière chaque scène, il y a une scène. Et je vous l'ai dit dimanche dernier, il y a deux dimanches, qu'il y a toujours derrière la scène, une autre scène. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord pour que tu avances. Il y a ce qu'on appelle les esprits de la maison des pères. Les esprits de la maison des pères sont les démons affectés à la maison des pères. Ce que ton papa a été, tu le sauras. Ce que ta grand-mère a été, tu seras. C'est pourquoi très souvent, vous allez voir que les femmes, elles finissent toujours par ressembler à leur mère. Où les hommes finissent toujours par répondre à leur père. Pourquoi? Parce que il y a dans la réalité des choses spirituelles, chaque enfant de Dieu est suivi par un esprit. Et la mission de cet esprit-là, c'est de veiller à ce que ta vie ne soit pas meilleure que celui de ton père. Maintenant, le chrétien qui n'a pas compris que pour aller au-delà de son père, il faut qu'il fasse plus que ce que son père a fait, va ressembler à son père. Voilà pourquoi c'est important d'avoir de la connaissance. C'est important de comprendre les choses. Tu vas voir, très souvent, vous allez voir, aux États-Unis par exemple, c'est très fréquent. Quand tu vois une femme aux États-Unis, 30 ans, elle est déjà grand-mère. Et souvent, leurs enfants là font même chose. Ou si c'est une femme qui, à un moment donné, dans la famille, la maman n'a jamais été, a été toujours mère célibataire avec enfant. Même si la fille se marie, elle va se débrouiller pour devenir un jour mère célibataire. Les esprits de la maison des pères vont suivre la dame là jusqu'à ce qu'un jour l'esprit de confusion vienne, que monsieur dise A, qu'elle entende B, que monsieur dise B, elle entende Y, et puis les deux vont se séparer et ils vont redevenir, et ils finissent par retrouver. Ils redeviennent un clan de gens, mère, enfant, sans mari. Ou si c'est un père qui était, c'est affaire de femme qui était son problème toute sa vie, ou boisson, ou quelque quoi, le fils, s'il prête pas attention, s'il n'observe pas ce qui a été la faiblesse de son père, c'est ce qui va le tuer. Alléluia. Donc derrière une scène, il y a toujours une scène. Et il faut comprendre cela, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que ton père a été, mais tu peux devenir plus grand que ça. Ce matin, dis je déclare. Je vais au-delà de mes pères. Le roi de Perse. Les esprits affectés à la maison de mon père. Chargés de rendre ma vie pareille que celle de mes pères. Je déclare vos œuvres anéanties dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. J'ai un cheminement différent de celle de mes pères. Et je l'accomplirai. Au nom de Jésus. Si tout le monde a des problèmes avec la boisson dans ta famille, tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes problèmes. Si tout le monde a un problème de, je crois, quelle que soit la maladie qui est dans la lignée familiale, tu n'es pas obligé d'avoir cette maladie. Parce que tu as le sang de Jésus dans tes veines désormais. Dis Amen. Amen. Dites Amen très fort. Amen. Donc dans la vie de Rahab, il y a cette dualité. Mais Rahab a su renverser la situation de crise qui s'est présentée à elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alléluia. La première chose, la Bible dit, lorsque les espions sont arrivés, lis-moi Josué 2, verset 11. Quelle a été sa déclaration? Elle a d'abord fait l'historique de ce qu'elle a entendu, de ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Et elle a dit quoi?
Nous l'avons appris.
Oui.
Et nous avons perdu courage.
Mm-hmm.
Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect.
Oui.
Car c'est l'Éternel votre Dieu,
mm-hmm,
qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Il dit c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et Dieu en bas sur la terre. Donc elle fait une confession importante selon Jean 3,16. Que dit Jean 3,16? Il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Oui, vas-y. Lis-moi. Lis-moi normalement. Oui, vas-y. Car, oui. Parce que les gens tronquent ce verset là. Oui, vas-y. Jean 3,16.
Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde,
oui,
qu'il a donné son Fils unique,
mm-hmm,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Merci. Afin que quiconque, est-ce qu'on peut dire ensemble quiconque, croit en lui ne périsse point. Ça veut dire ce matin, tu fais partie des quiconque, quelle que soit ta situation, quel que soit le problème que tu as, quels que soient les défis que tu as. Si et seulement si tu peux croire, ta situation de crise peut être renversée. Il dit quiconque croit. Rahab a fait quoi? Rahab a cru en ce que Dieu a fait avec les Juifs. Et elle a fait une déclaration. Donc elle a respecté le principe du salut qui dit, celui qui croit et qui confesse. Celui qui croit et qui confesse, conséquence est. Donc elle a suivi le principe. Elle a cité les événements, les actes de Dieu avec les Juifs. Et elle a cru ces actes-là. Et elle les a confessés. Elle a dit quoi? Elle a dit, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. Elle a confessé Jésus. Dis Amen.
Amen.
Elle a confessé Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Amen.
Et ayant confessé Jésus, bien sûr, Jésus est entré dans son cœur. Donc, elle a reçu le salut. Est-ce qu'on peut dire salut?
Salut.
Donc, la première chose que vous devez comprendre ici, dans l'acte que Rahab a posé, c'est que Dieu, frère, Dieu ne consulte pas votre passé pour déterminer de votre futur. Parce que voilà une femme qui avait un passé de prostituée. Une femme qui ne connaissait pas Dieu. Une femme qui était adoratrice d'idoles. Mais dans la vie de qui Dieu est entré. Donc Dieu n'a pas eu besoin de consulter son passé pour déterminer son futur. Et c'est pourquoi j'ai dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, quel que soit ce que tu as été hier, quel que soit ce que tes parents étaient, quel que soit ce que ta vie est, quel que soit les problèmes dans lesquels tu as été, même il y a 2 minutes ou il y a 1 heure avant que le culte ne commence, si et seulement si tu peux croire comme Rahab, confesser comme Rahab, alors le salut vient à toi. Est-ce qu'on peut dire Amen, 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 Amen? Je dis, le salut vient à toi ce matin. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas jusqu'à où tu es trempé dans une affaire. Je ne sais pas comment le péché t'a malmené jusqu'à un moment donné. Tu es arrivé à un point où tu n'as plus d'espoir qu'il y a possibilité pour toi de chanter. Je vais te dire que ta situation n'est pas pire que celle de Rahab. Mais voilà une femme qui a su renverser la situation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris que Dieu ne consulte pas le passé d'un homme pour déterminer de son futur. Je dis, Dieu ne consulte pas ton passé pour déterminer ton futur. Ce que tu as été hier, c'est passé. Ce que tu as été avant-hier, c'est passé. Si et seulement si, ce matin, tu peux accepter de croire. Et de croire qu'avec Dieu, il y a un nouveau commencement et que le changement est arrivé. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je déclare que le changement est arrivé dans ta vie ce matin. Je dis quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie ce matin. Lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, Dieu le fait de façon anodée. Ça dit ça passe pratiquement inaperçu. Je ne sais pas qui Dieu veut toucher ce matin, mais Dieu est capable. Il a fait pour Rahab une journée. En une journée, il a changé la vie de la femme. Il peut le faire pour toi. Amen. J'ai dit, il peut le faire pour toi. Amen. Et il le fera au nom de Jésus. Amen. Dieu donc ne consulte pas ton passé pour déterminer de ton futur. Lis-moi Acte 10, verset 34. Que dit Acte 10, verset 34? Acte 10, 34 dit.
Acte 10, 34 dit. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne.
On va s'arrêter là. Il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Est-ce qu'on peut lever la main droite pour dire Dieu ne fait exception de personne?
Dieu ne fait exception de personne.
Oui, dis plus fort. Dieu ne fait exception de personne.
Dieu ne fait exception de personne.
Ça veut dire simplement que ce matin, qualifié. Est-ce que tu peux dire je suis qualifié? Oh, quel Dieu merveilleux nous servons, frère. Je ne sais pas quel est ton combat. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais je dis ce matin, tu es qualifié. Dieu ne fait exception de personne. Et quiconque l'invoque reçoit le salut. Ce matin, si seulement tu peux l'invoquer, comme Rahab a reconnu et a déclaré, ta vie va complètement changer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Acclamez, 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 acclamez. Alléluia. Si seulement tu peux le croire. On t'a peut-être condamné. On a peut-être mis un nom sur toi. On dit Rahab la prostituée. C'est son nom. C'est l'étiquette qu'on lui a donnée. C'est une prostituée. Mais elle a reconnu une chose. C'est vrai, je suis une prostituée. C'est vrai, c'est ce que j'ai été dans le passé. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout peut changer. Dieu ne consulte jamais le passé d'un homme pour déterminer de son futur. Il n'a pas consulté le passé de Rahab pour changer sa vie. Et ce matin, si tu es là, tu as été trempé dans n'importe quoi, c'est du passé. Je suis venu te dire, c'est du passé. Ne laisse pas Satan te détruire avec ton passé. Ne laisse pas Satan te dire, oui, toi, Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu as été un bandit. Tu as été tant. Le grand Paul, le braqueur, le criminel en série, le tueur en série, on sait ce qu'il a été avec Dieu. Alléluia. Dieu l'a utilisé pour écrire ses actes. Et nous connaissons que grâce à Paul, il y a des révélations que l'Église a reçues, que l'Église n'aurait jamais reçues si Paul n'avait pas existé. Dieu peut recommencer avec toi. Oh, ton amen. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu ou bien quoi? J'ai dit, Dieu peut recommencer avec toi. Il ne faut jamais désespérer d'un homme. Ça, c'est un conseil que je te donne. Un homme, tant qu'il vit, tu seras surpris. J'ai dit, Dieu est trop fort. Ne désespère jamais d'un homme, quel que soit ce qu'il est. Aujourd'hui, il peut être ce qu'il est. Hein. Tu te moques de lui. Tu dis, il n'est rien. Tu peux même le taper. Tu peux l'envoyer des mains. Il peut être celui qui va te donner la vie. Voilà le Dieu que vous servez. C'est pourquoi la situation des gens que vous voyez là est temporaire. On appelle la situation temporaire. Dis situation temporaire. Quelqu'un est menuisier, ça c'est situation temporaire. Quelqu'un est femme de chambre ou bien quoi, ça c'est situation. Quelqu'un n'a pas à manger, ça c'est situation. Quelqu'un n'a pas l'argent aujourd'hui, ça c'est situation. Frère, on connaît des gens ici, ils avaient tout aujourd'hui, ils n'ont rien. à Abidjan ici. On connaît des gens aussi qui n'avaient rien du tout. Aujourd'hui, ils sont tout. Alléluia, 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 alléluia. Frères et sœurs, Dieu peut changer ta vie. Il ne faut jamais désespérer. Si tout le monde pense que tu n'es rien, tu dors même dans une case. Tu ne sais pas. J'ai dit Dieu. Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous connaissons des gens ici à Abidjan. Frères, qui ont acheté maison aux deux plateaux ici. Qui ont des terrains aux deux plateaux ici. Il y a 2 ans, frères, ils marchaient à pied. Ils ne trouvaient même pas l'argent pour prendre Wara Wara Abidjan ici. Aujourd'hui, ils sont propriétaires. Alléluia! Dieu peut changer ta vie. J'ai dit, Dieu peut changer ta vie. Ne méprise jamais un homme. Je dis bien, ne méprise jamais un homme. Un homme, tu ne le connais pas. Le plus grand mystère qu'il y a dans la vie, c'est l'homme. L'homme est un mystère. Tu peux le voir aujourd'hui. Il ressemble à rien. Il marche. Il est là. Frère, souvent je suis dans ma voiture, quand je me promène, je vois des jeunes enfants en train de jouer. Et puis quelque chose me dit, est-ce que tu sais que ce type-là, eux-là, il peut avoir le futur ministre dans quelques années, le futur président? Mais j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas vrai. Il dit, mais oui. Il dit, les hommes évoluent. Les hommes règnent par étapes et par saisons. Il n'y a personne qui est éternel. C'est pourquoi on n'a pas besoin de faire palabre. Frère, ils ont fini de manger pour eux, ils vont partir. Ils ne resteront pas l'éternel. La production, la bénédiction, l'argent ne finira jamais dans ce pays. Dans 5 ans, c'est fini. Ils sont tous calés par l'âge. D'autres gens vont revenir. Et c'est une nouvelle génération de riches qui va venir. Pourquoi faire un palabre? Il n'y a pas de palabre à faire. Si vous voulez, nous-mêmes, même nous là, si on dit on va prendre pouvoir là, on va prendre ça combien d'années? À un moment donné, tu as vieilli. Tes yeux vont commencer à s'affaiblir. Tes muscles vont commencer à te relâcher. Les petits gars qui traînent dans la rue ici, qui sont pleins à l'école là-bas, on dit, oui maîtresse. 1 + 1 = 2, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Il y a des petits gars dans les casernes aujourd'hui, ils n'ont même pas un seul V. Dans quelques années, on ne pourra pas respirer sans lui. Il sera général de corps, chef d'état-major. Frères et sœurs, le temps passe, les choses passent, les hommes viennent, ils font leur partition et ils s'en vont. Il n'y a personne qui est éternel. Alléluia! Alléluia! Voilà pourquoi tu dois comprendre que la vie que Dieu t'a donnée, tu dois bien la vivre maintenant. Tu dois bien la vivre maintenant. Dis amen. Parce que si ton temps est passé, c'est passé. Je disais au premier culte ce matin, j'ai dit, mais c'est incroyable de voir des gens qui donnent leur vie à Jésus et qui sont dans la survie. On ne peut pas survivre. On peut survivre quand on ne connaît pas Jésus. Mais dès qu'on connaît Jésus, on ne peut pas continuer à survivre. Tu vas vivre quand? Tu vas vivre quand? Le temps passe. Tu ne vas pas rester jeune. Il va arriver un moment donné, le travail que tu fais là, tu ne peux plus faire. Mais pendant que tu avais l'occasion de faire, tu n'as pas fait et tu n'as pas bien fait. Voilà pourquoi il faut servir Dieu comme si demain Jésus venait. Voilà pourquoi il faut partir, il faut évangéliser, il faut investir dans l'œuvre, il faut construire, il faut faire en sorte que le temps que Dieu t'a donné, pendant que tu as la force, pendant que tu as la vie, maximise. Maximise. Quand au ciel, on va comparer les gens en fonction de la tranche d'âge qu'ils ont eu, on va dire à 30 ans, lui, il avait déjà pratiquement réalisé 80% de sa mission. À même 30 ans, lui n'avait même pas encore fait 10%. Le temps ne vous attend pas. Vivez. Soyez bien. Dites amen. On n'est pas chrétien pour souffrir. Je dis, si c'est ça, retourne dans le monde. Va voir le féticheur, s'il te plaît. Parce que tu ne peux pas être pécheur, souffrir, être comme tu es, donner ta vie à Jésus et venir continuer à souffrir dans l'église et vivre moitié, ce n'est pas possible. On ne peut pas donner notre vie à Jésus et souffrir. Je refuse de souffrir. Non! Parce que dans tous les cas de figure, tu es à l'église là, il y a des choses que tu ne peux pas faire comme tout le monde. Donc attrape bien Jésus et vis pleinement ta vie chrétienne. Tu seras épanoui. Dieu va te bénir. Tu auras la capacité. La vie ne va pas te dominer. Tu vas dominer tes circonstances. Tu vas décider de ce que tu veux. Et c'est ce qui arrivera. Alléluia! Frère, tu arrives à un moment donné dans la vie chrétienne où rien ne te domine. C'est toi qui décides. Ce que tu veux, ce que tu veux manger, où tu veux aller, ce que tu ne veux pas. Ta voiture t'énerve, tu changes. Ta maison ne te plaît pas, tu achètes une nouvelle. Et je te dis la vérité. Pourquoi tu veux que ce soit autrement? Tu es un enfant de Dieu. Mais tu es encore chrétien et tu souffres. Tu t'en sors pas. Tu cherches mille frères ici. Tu t'en sors pas. Pourquoi? Parce que tu fais un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Ta vie chrétienne est comme ça. Sois païen en même temps. Non, sois païen. Moi, je te propose, hein, sois païen. Là, on sait que tu es un païen. Mais ne sois pas un chrétien et un païen en même temps. Ça ne marche pas. Dites Amen. Alléluia. Les politiciens que vous voyez là, ces gens du monde là, ils ont choisi leur vie et c'est ce qu'ils sont en train de vivre là. Après 5 ans, tous ceux qui nous fatiguent là, vous n'allez plus les voir. C'est juste pour des conseils. Peut-être que les gens vont les voir. C'est fini. Ils sont à 70 ans, 75 ans. C'est fini. Ils sont au soir de leur vie, eux tous. C'est fini. Mais ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils ne pourront plus jamais le faire. C'est maintenant. C'est pourquoi ils sont prêts. Même si c'est des milliards à dépenser comme ça, ils vont dépenser. Pourquoi? Parce que le reste, le peu de temps qui leur reste là, ils veulent maximiser leur vie. Ils veulent vivre. Donc, donner l'argent, payer les grands posters, remplir la ville, même si à 2 jours, ils sont capables de dépenser des milliards, ils s'en foutent. Il leur reste peu de temps. Ils savent que la richesse ne finit pas. La terre va toujours produire la richesse pour ses fils. Donc, gaspille, on va avoir encore pour qui va sortir. Vous comprenez ce que je dis? Tu comprends bien ce que j'ai dit ce matin. C'est pourquoi ce que tu fais maintenant, fais-le bien. Vis pour que Dieu soit fier de toi. Vis pour que ta vie ait un sens. Que ta vie ait un sens. Que ce ne soit pas une vie qui n'a pas de sens. Une vie qui va, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu es là, tu accompagnes les gens. Tu ne sais même pas. Tu pleures matin, midi, soir. Ça doit être passé. Dis passé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu souffres ce matin. Tu peux t'en sortir. Je dis, tu peux t'en sortir. Première vérité, j'ai dit, Dieu ne consulte pas ton passé pour déterminer ton futur. Deuxième vérité dans cette affaire de Rahab, c'est que Dieu honore la foi de ses enfants. Parce que cette femme qui était une prostituée qui ne savait rien du tout de l'alliance, elle a simplement cru et Dieu a honoré sa foi. Donc toi qui es dedans, si tu crois ce matin, Dieu va t'honorer. J'ai dit, Dieu va t'honorer. Est-ce que tu peux croire ce matin? Que ta vie ne restera pas comme ça. Est-ce que tu peux croire que quelque chose va changer? Amen. Moi, je ne suis pas venu accompagner les gens. Frère, vis bien. Tu as une maison. Mets une bonne télé. Enlève blanc noir. Là. Tu vas avoir mal aux yeux. Griller tes yeux. Griller ta cornée pour rien du tout. Mets une bonne télé qui fait que tu n'as pas trop de maux d'yeux quand tu regardes. Dors bien. Paye un bon matelas. Il ne faut pas payer un truc. Tu dors, ton côté ici te fait mal. Frère, ta vie est trop importante. Dis Amen. Ah! Il y a un vieux, il est mort. Et à sa mort, on fouille en bas de son lit. En bas du lit. Il vivait mal. Il ne mange pas bien. Il est à pied. Quand il voit l'argent, il est content, il pense qu'il est riche. Frère, la richesse, ce n'est pas aller à magasiner. On a un compte quelque part, et puis chaque fois, on t'envoie un bulletin de solde, tu regardes, tu dis, waouh, j'ai 25 millions. Frère, quelle est la preuve que 25 millions, tu as mangé dedans? Si ton pied cogne un caillou, tout de suite, et puis tu tombes. C'est ce que tu fais maintenant là qui t'appartient. Ce qui est là-bas ne t'appartient pas. Ils ont plein de sous. Ils ont plein. Il y a un monsieur, on allait l'opérer. Hernie ombilicale. Un monsieur, hein, d'un certain âge, je connais bien ses filles. Hernie, on l'a opéré. Anesthésie, on le réveille, il ne se réveille plus. Il n'y a même pas longtemps. Il ne s'est pas réveillé de son truc. Pourtant, quand il partait, c'est parce qu'il a dit à sa femme que je m'en vais pour ne plus revenir. Il n'a pas dit ça. Je lisais une histoire hier qui m'a touché. La dame disait, quand tu vas au... Il faut aller toujours, et puis quand tu vas, une tombe, lis sur la pierre qui est là. Il y a toujours le nom de quelqu'un. Il y a toujours une date. Il y a une date d'union, et puis il y a une autre date. Comme dans le médicament, il y a date de fabrication, date d'expiration. Mais elle dit, ce qui a attiré ton attention, ce n'est pas les deux dates. Né le tatatatata. Trait d'union, mort le tatatata. Que Dieu éloigne la deuxième date au nom de Jésus. Alléluia. Elle dit, ce qui l'intéresse, c'est le trait d'union. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, le trait d'union là, l'a interpellé. Vous comprenez, elle dit, les deux dates, c'est pas important. Le trait d'union, c'est qu'est-ce qu'il a fait des deux dates. Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux dates? C'est ça qu'elle veut savoir. C'est ce qui peut réussir les deux. Sinon, l'autre, la première date, c'est rien. Dans tous les cas, numéro un, tu n'es pas témoin, on t'assiste. Les gens sont là, ils te balancent dans tous les temps, on tape ton pied, on tire, tu cries, waouh, on te fesse pas, tu ne maîtrises rien dans la première date. Deuxième date aussi, tu ne peux pas parler, tout, on te balance ici, tout le monde a peur de toi, on te jette que pas, puis on fuit. Donc les deux dates là, c'est la vérité, non? Donc c'est ce qu'au milieu là, elle veut savoir. Le gars a été quoi? Le gars a fait quoi? Quelle empreinte il a laissée avant de partir? Est-ce que frères et sœurs, on pourra... C'est l'empreinte là que je veux savoir. Est-ce que ta vie est en train de laisser des empreintes sur terre? Est-ce que tu es en train d'impacter des vies? Alléluia! Alléluia! Et la foi en Dieu dit amen! Et dit amen plus fort que ça! Ta foi est ce qui va faire la différence. Romains 8 verset 1 dit quoi? Romains 8 verset 1. Oui. Romains 8 1. Nous savons. Vas-y rapidement. Romains 8 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Crois en Dieu, Dieu va honorer ta foi. Dis amen. Personne ne pourra te condamner. Personne ne pourra dire il a été ça. S'il veut utiliser ton passé, là, ils n'ont qu'à utiliser. Si c'est leur fonds de commerce, ça peut les aider à avoir un peu d'argent, que Dieu les bénisse. Mais toi, c'est le passé, tu es devant. Dis amen. Quand on te demande, c'est pas toi on voyait faire des bêtises il y a 6 mois là, tu dis moi. C'est mon jumeau. C'est pas moi. Frère, c'est pas toi. Même si tu as volé hier, c'est plus toi. Parce que tu as changé. Et Dieu est d'accord. Oubliez le passé. Dis oublie le passé. Alléluia. Donc, Rahab a cru en Dieu. Mais regardez ici. Là, le fait d'avoir cru les promesses de Dieu, d'avoir cru que Dieu a fait ça, et d'avoir agi en confessant, n'a pas été suffisant. Il fallait que Rahab fasse un certain nombre de choses. Les espions ont dit quoi? Ils disent, ok, tu nous as reçus dans ta maison. Et vous allez voir que c'est Rahab même qui a exigé le salut. Elle a dit, s'il vous plaît, je vous demande, je vous prie, qu'il n'y ait personne qui périsse dans ma maison. Elle a demandé le salut. Elle a dit, je veux le salut. Je suis prêt pour le salut.
Pour mon père.
Elle a confessé à Dieu et elle a dit, je suis prêt pour le salut. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ok, tu ne veux pas mourir, toi et les gens de ta maison. Nous, on est d'accord. Mais, il y a toujours un mais. Et c'est ce que je vais te dire ce matin. Si tu fais ça, le salut que tu as confessé va se matérialiser dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'elle a reçu le salut, mais elle devait voir la manifestation du salut dans sa vie. Les gens de sa maison devaient vivre. Mais il y avait des conditions. Lis-moi. À partir du verset 11.
Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie,
oui, vas-y.
Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous.
Nous sommes prêts à mourir pour vous. Oui, vas-y.
Si vous ne divulguez pas ce qui vous concerne, ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité.
Amen. Regardez ici. Maintenant, ils vont donner des instructions. Quand ils vont sortir, ils vont donner des instructions. Et il y a deux instructions majeures que je veux que tu comprennes ce matin. Alléluia. Lisons d'abord Deutéronome 30, versets 15 et 16. Deutéronome 30, 15 et 16. La première instruction. La Bible dit dans Deutéronome 30, versets 15 et 16. Qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome 30, 15 et 16? Il dit quoi? Oui.
Deutéronome 30. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi.
Je mets aujourd'hui devant toi.
La vie.
La vie.
Et le bien.
Le bien.
La mort.
La mort.
Et le mal.
Oui.
Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu.
Oui.
De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements.
On s'arrête là. Donc voyez ici, la Bible dit, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. Je te prescris de choisir la vie. Donc dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un acte à poser. Il n'y a personne qui n'est pas face à un choix. Je l'ai dit dimanche dernier, je dis, la vie est une succession de choix. Tu ne peux pas choisir de vivre comme tu veux et espérer que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Non. Quand Dieu prophétise ou parle, la parole que Dieu a donnée, s'il n'y a pas un prix qui est payé, la parole ne s'accomplira pas. Et on a vu des exemples dimanche dernier. Comment Pierre allait mourir avant le temps si l'Église n'avait pas accepté de payer le prix. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc Rahab, certes, a reçu grâce aux yeux des espions. Elle a confessé Dieu, mais ce n'était pas suffisant parce que la confusion allait créer quelque chose. Et si elle n'avait pas les garanties nécessaires, elle aurait pu mourir, elle et les enfants de sa maison. Donc, il y avait des actes qu'elle devait poser pour que la confession qu'elle a faite de ce que je crois en Dieu puisse correspondre aux actes qu'elle va poser afin que sa foi soit manifeste et qu'elle soit sauvée. La Bible dit on est sauvé par la foi. La foi est un acte. Donc elle a cru, elle a confessé. Ce n'était pas suffisant, il fallait qu'elle agisse. Dites amen.
Amen.
Beaucoup de gens ont des difficultés parce que plusieurs croient en Dieu. Oui, Dieu. Mais ce n'est pas suffisant de croire que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu fera tout pour toi. Mais ce n'est pas suffisant, mon frère, ma soeur. Quels sont les actes que tu poses pour que ce que tu crois que Dieu va faire, qu'il puisse le faire? Par exemple, tu n'as pas l'argent. Tu as besoin d'argent. Je crois que Dieu va me donner l'argent. Que dit la Bible sur les finances? Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. C'est tout. Donc, quand on croit, on pose les actes correspondants à notre foi pour que ce qu'on croit arrive. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ici? Trop de gens croient simplement et ne veulent pas faire ce qu'il faut faire pour que ce qu'ils croient là arrive. Et ils espèrent qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel qui fera à leur place ce qu'ils ont à faire. Dieu ne fera pas pour toi ce que tu as à faire. Dieu a déjà fait sa part. Il a sauvé le monde. Dieu a parlé sur le monde. Dieu a décidé que les hommes réussissent. La Bible dit qu'il est désormais assis sur le cercle de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Bible disait que le monde était rond, il y a longtemps, les scientifiques disaient que c'était plat. C'est plus tard qu'ils ont découvert que le monde est rond. La Bible dit Dieu est assis sur le sec de la terre. La Bible est écrite depuis combien d'années? Il est désormais assis, il regarde. Et il t'observe. Que veux-tu faire de ta vie? Ça dépend de toi. Rahab a pris ses responsabilités. Instruction numéro 1. Ils ont dit quoi à Rahab? Ils ont dit à Rahab, voilà ce que tu as fait. Elle a accepté de le faire. Alléluia. Ils ont dit, tu vas mettre un cordon de cramoisi à la fenêtre.
Amen. Merci.
Tout le monde dit, mettre un cordon de cramoisi à la fenêtre.
Mettre un cordon de cramoisi à la fenêtre.
Josué 2, verset 18. C'est ça? Lis ça.
À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle.
Oui, vas-y.
Tu nous fais descendre.
Mm-hmm.
Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père.
On va s'arrêter là. Donc, la première instruction qu'ils ont donnée à Rahab, il dit tu nous fais descendre par là. Mais. Quand on va revenir pour prendre la ville et où il y aura une cacophonie, où il y aura beaucoup de peut-être morts, toi, Rahab, instruction numéro 1, attache un cordon de cramoisi à cette fenêtre-là. Comme indication pour nous. Comme indication pour séparer ta maison et pour sauvegarder ta maison. C'est pourquoi ils ont dit à Rahab, maintenant va ramasser tous ceux qui te sont chers. Mets ces gens-là dans la maison. Au moins, c'est sûr qu'ils vont vivre. Qu'est-ce que représente le cordon de cramoisi ici? Lorsqu'on parle de cordon de cramoisi dans la Bible, ce cordon est un symbole également de l'alliance de sang que Dieu a eu avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Lorsqu'il a dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, oui, d'immoler un agneau, de prendre le sang et de mettre sur les linteaux de toutes les portes des Juifs. Afin que lorsque l'ange de la mort va passer, s'il y a le sang, qu'il passe. Donc, il fallait que Rahab comprenne et accepte de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Il n'était pas suffisant pour elle de croire. Il n'était pas suffisant pour elle de dire... Oui, vous avez juré que je vais vivre, donc je vais vivre. Non, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'elle quoi, obéisse aux instructions qu'on allait lui donner. Numéro 1, attacher un cordon de cramoisi à sa fenêtre. Pour que sa maison soit séparée, pour que sa maison soit protégée. Donc, qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui? Le cordon de cramoisi ici représente Christ. Est-ce qu'on peut dire Christ? Dis Amen plus fort.
Amen.
Ça veut dire quoi? Christ dans la vie d'un homme. Jésus a dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Ça veut dire quoi? Un homme qui garde les commandements de Dieu, un homme qui fait la volonté de Dieu, alors Christ est marqué ou est imprimé sur son esprit. Et son esprit devient une entité, zone de danger qu'on ne peut pas toucher. Donc, elle devait mettre ce cordon de cramoisi, lorsqu'il y allait avoir la confusion qu'il fallait tuer, qu'ils allaient commencer à tuer les gens, quand ils allaient voir le cordon de cramoisi, ils allaient épargner la maison. Avec tous les habitants de la maison. Même si un ennemi entrait dans la maison, il était épargné. Pour dire quoi? C'est Jésus seul qui peut épargner votre vie de tout danger, de toute calamité. Dans ce monde dans lequel nous sommes, tout être humain qui est né d'une femme est fiché. Je ne sais pas quelle est ton identité dans le monde spirituel. Parce que beaucoup de gens font semblant de marcher avec Dieu, mais en réalité, ils ne marchent pas avec Dieu. Qu'est-ce qui te marque? Qu'est-ce qui te donne l'empreinte de ce cordon de cramoisi sur ta vie qui sépare ta vie? La preuve. Quand on veut tirer à ta vie, est-ce que ta vie est séparée? Tout ce qui arrive dans la ville de mal, là, ça t'arrive aussi. On dit à crise, tu souffres. On dit à peste dans la ville, ça rentre dans ta maison. On dit à choléra, ça rentre dans ta maison. On dit à tout, dans le quartier, c'est chez toi que ça commence. Sincèrement, vraiment, ton cordon ne doit pas être encore attaché. Hein? Non! Nous sommes des enfants de Dieu! Savez, moi, je vais croire la Bible jusqu'à ce que vraiment je ne sais pas. Hein? Mais on ne peut pas me convaincre que c'est la Bible qui ne marche pas. C'est nous, on ne marche pas bien.
Amen.
Non, 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 non. Ça doit être nous, quelque part, qui n'allons pas bien. Parce que les chrétiens sont arrivés à un point où les choses ne vont pas tellement que, même quand on dit, ils se disent, mais vous dites la merde. Regardez, regardez le quotidien. Mais le quotidien qu'on observe là, ça ne peut pas être Dieu qui soit à l'origine. C'est le cœur des hommes qui a changé. Leur cœur se sont détournés de Dieu. Leurs cœurs sont devenus noirs. Leurs cœurs sont devenus doubles. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à faire sa volonté. Sinon, si un cordon de cramoisi est attaché à ta porte, si le sang est appliqué, la mort ne peut pas entrer. La maladie ne peut pas entrer. Oui, la faiblesse ne peut pas entrer. Quel que soit le fléau, Dieu va t'épargner. Elle devait attacher. S'il vous plaît, ce matin, je suis venu vous dire, attachez le cordon de cramoisi. Dis à ton frère, attache ton cordon de cramoisi. C'est-à-dire, remets Jésus-Christ de Nazareth au centre de ta vie et de tes activités. Que Jésus ne soit pas juste la personne que tu consultes quand tu as besoin de quelque chose. Que Jésus ne soit pas juste quelqu'un, tu vas vers lui quand tu as des soucis. Mais que Jésus reprenne sa place sur le trône. Je dis, rien de mal ne peut arriver à ta vie. Amen. Même si il y a un déluge en Côte d'Ivoire, tu seras épargné. Amen. Tu montes dans un avion. Si l'avion était destiné à descendre, toi tu vas rester en haut. Amen. 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 Dans la crise, il y a des gens qui ont prospéré. Quand on parle de crise, il y a des gens qui sont surpris, ça les étonne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur cordon de cramoisi. La crise n'est pas entrée. Les gens ont perdu leur boulot partout, partout. Lui, son boulot est resté là. Même quand on a chassé, quand il restait 4 personnes, il est dedans. Son cordon est attaché. On ne peut pas entrer dans sa vie. Ce n'est pas possible. Ces 400 mètres-là, on n'entre pas là-bas. Pourquoi? C'est sécurisé. Le cordon de cramoisi. Comment on attache le cordon de cramoisi? C'est quand on fait la volonté de Dieu. Comment on fait la volonté de Dieu? C'est quand on respecte certains principes élémentaires. Par exemple, si tu ne veux pas que l'ennemi infiltre tes finances, il faut payer ta dîme. Ça, c'est ton cordon de cramoisi sur ton argent. Tu ne payes pas ta dîme. Ils vont infiltrer tes finances. Parce que l'affaire là est sérieuse. Ils disent qu'on va venir, on va infiltrer les maisons, on va tuer. Mais vous, comme vous avez accepté là, mais ce n'est pas suffisant d'accepter Jésus et de confesser. Il faut attacher un cordon. Le cordon, c'est le principe que tu respectes qui sécurise ce que Dieu t'a donné. Ton argent, tu ne veux pas que l'ennemi prenne ton argent, qu'il casse tes affaires, paye ta dîme. Quand on dit aux gens, il dit oui, un chrétien qui ne paye pas sa dîme, c'est un païen. Non, parce que Dieu ne joue pas avec les finances. Est-ce que vous savez que pour les finances, Dieu ne joue pas? Dieu détermine la relation qu'un homme a avec lui par rapport à la façon dont il gère ses finances. Mais lisez, la Bible dit, si tu n'es pas fidèle avec les richesses injustes, qui est l'argent, qui te donnera les richesses éternelles? Si tu ne peux pas donner 20 000 francs de dîmes, 50 000 francs, 100 000, 200 000 de dîmes à Jésus, toi aussi. C'est la bouche. Parce qu'il dit, donc, si tu ne veux pas qu'on touche ta santé, ton cordon de cramoisi, c'est quoi? Pour la santé, c'est quoi? Qui peut me dire? Pour la santé, quel est ton cordon de cramoisi? Hein? Hein? Oui, vas-y. Oui, non, ça c'est bon. Mais aider les pauvres, écoutez-moi bien, aider les pauvres est un principe attaché à la bonne santé. Il n'y a jamais rien. Un homme qui méprise les pauvres est un homme qui ne va pas s'en sortir sur le plan de la force santé. Donc, non seulement naturellement il faut bien manger, il faut se comporter bien, il faut faire du sport, mais il y a des commandements que Dieu nous donne. Même le sport dans la Bible est un commandement. Mais comment tu peux vivre? Tu as magasiné déchets toxiques dans tes muscles. Tu ne fais jamais de sport pour libérer déchets toxiques. Il y a un problème. Bien manger, bien se comporter. Et ce n'est pas tout. Santé, il y a quoi encore? Une vie de sainteté te donne la santé. Tu te promènes à faire n'importe quoi, tu vas tomber malade. Tu ne te reposes pas. Tu vas fatiguer ton cœur, tu vas fatiguer tes muscles. Tu fais n'importe quoi à gauche, à droite, au centre, tu vas attraper un petit truc. Tu vas te coiffer n'importe comment. Tu dis oui, le Saint-Esprit, tu entres dans tous les salons de coiffure, tu t'assois. On prend la tondeuse. Le sang de Jésus sur la tondeuse. Mon frère, c'est pas le sang de Jésus sur la tondeuse. on mène à ta cheville, si le gars s'est un conseil, il te pique avec ça, tu dis, excuse-moi mon frère, oh excuse-moi, hein, il y a un peu d'alcool ici. Oh Yako, il y a longtemps tu es infecté. Tu es infecté il y a longtemps. Les jeunes soeurs, toujours, à jamais, elles sont là, on prend aiguille, pique, on dit, je métisse, tissage. On pique les cheveux le matin, midi, soir, frère. Il faut t'informer, va voir les médecins, ils vont te dire que l'alcool qui est là, ça ne tue pas les microbes. Ça les fixe pour un temps. Et en fonction des catégories de microbes, il y en a qui meurent sur 5 minutes, il y en a qui meurent sur 20 minutes, il y en a qui meurent sur 30 minutes. Par exemple, le virus de l'hépatite B, il ne meurt pas comme ça. Même si quelqu'un prend aiguille, il plonge dans l'alcool, il sort ça. J'ai fait, hein? Tu as vu, non? C'est devant toi, il est plongé. Dès qu'il te pique là, tu as chaud. Le gars n'est pas mort. Mon frère, arrête des histoires d'aller se tisser, prends perruque, mets ça comme ça, tu es tranquille. Dis Amen. C'est la même chose, frère. Il y a plusieurs. Achète 1000 perruques. Tu changes seulement. Dis Amen. Laisse tes cheveux se rompre. Toujours on met aiguille dans ta tête. Ou bien achète ton pack de, je crois, d'aiguilles, toutes sortes d'aiguilles, toi seul. Tu fais tes trucs. Et pellicule, manicure. Faut pas faire confiance. La vie là, le monde est tellement compliqué que pour chaque fois que tu dois poser un pas, faut t'assurer que le pas là, ça t'apporte bonheur. C'est un pas sécurisé. Sinon, les choses sont compliquées. Ne vis pas n'importe comment. Si tu prêtes une seconde d'inattention et ta vie bascule dans l'horreur. J'ai dit une seule seconde, pas deux, d'inattention. Inattention, une seconde. T'es quelque part, tu as bu un peu de bière, tes yeux tournent. Une seconde d'inattention et puis tu es terminé. Santé, c'est la même chose. Longévité, c'est la même chose. Il y a le même principe. Donc chaque principe est comme un fil de cramoisie qui protège ce domaine de ta vie. Pour la santé, pour la prospérité. Jésus nous a donné des principes qu'il faut qu'on attache. Il ne faut pas seulement croire, il faut attacher. C'est-à-dire, pratique-les, elles te protègent. Quand le malheur vient, ça ne rentre pas. Les gens me regardent comme s'ils ne sont même pas d'accord avec ce que je dis. Qui prend la décision d'attacher son fil de cramoisi? Oh, il faut attacher, mon frère, attache. Attache, dis Amen. Attache, dis Amen. Il y a des gens, il ne faut plus marcher avec eux. Parce que quand ils entrent dans ta vie, ils détruisent ta vie. Il faut attacher fil de cramoisi sur leur vie. Il faut les fuir. Ils viennent là, tu passes là. Ils passent ici, tu passes là. Tu effaces leur téléphone, ils t'appellent, tu dis, ah, je sais pas. Tu racontes un truc, tu dis, bon, tu n'as pas le temps, bon, vraiment, que Dieu le bénisse. Quelque temps après, tu vas l'oublier. Lui aussi, il va t'oublier. Et ta vie sera sauvegardée. Alléluia. Ne laisse pas ta vie comme un boulevard, tout le monde entre, tout le monde sort. Personne, tout le monde ne peut pas entrer dans ta vie et sortir. Tu n'es pas un carrefour. C'est au carrefour tout le monde passe. Deuxième acte qu'elle a posé, c'est quoi? Ils lui ont dit maintenant, si quelqu'un parmi vous sort, on n'est plus responsable. Ça veut dire quoi? Deuxième instruction, restez à la maison. Est-ce qu'on peut dire avec moi, restez à la maison?
Amen.
Restez à la maison, la deuxième instruction qu'ils ont donnée. Ils ont dit, personne ne doit sortir. Si quelqu'un sort, la promesse n'a plus d'effet sur sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Restez dans l'alliance. Gardez la foi. Ne quittez pas la position que Dieu vous a donnée. Restez là où Dieu vous a placé. Ne quittez pas votre assemblée. Pourquoi? Il devait rester à la maison. Il devait rester à la maison parce que c'est seulement dans la maison qu'il y avait la sécurité. La promesse était attachée à la maison. Donc, s'il voulait vivre, non seulement il fallait attacher le fil, mais quand ils ont attaché le fil, ce n'était pas suffisant. Il fallait également rester là, sous la protection du fil. Ça veut dire quoi? Vous êtes des enfants de Dieu, frère. Je l'ai dit ici, je le répète. La main de Dieu n'est pas courte pour vous secourir. Mais la main de Dieu n'a pas la capacité de vous secourir en dehors de sa volonté. C'est-à-dire, hors du champ que Dieu vous a départi pour que votre vie s'exprime, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Si vous sortez du champ, c'est pourquoi dans les activités que vous avez, dans le travail que vous faites, soyez des hommes intelligents et réfléchis. Alléluia. Là où Dieu vous a placé, c'est votre maison. Tout le monde dit maison. Mais là, dans la maison dans laquelle Dieu t'a planté, à la porte de cette maison, il y a un cordon de cramoisi. Il ne suffit pas de dire, je suis de la maison. Rahab m'a appelé, elle m'a dit, c'est ici à la sécurité. Je suis allé, j'ai vu. Mais maintenant, laisse-moi aller me balader un peu. Dans la balade, tu vas périr. Ils ont précisé, reste à la maison. Restez sous l'autorité. Restez sous la couverture de l'alliance qu'on a eue avec vous. Sinon, il peut avoir mort d'homme. Si vous sortez, on est désengagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans une église, frères et sœurs, lorsque la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées, ce n'est pas parce que la Bible a envie de le dire. Quand tu dis j'ai choisi une église, comme tu dis j'ai choisi ABMC, c'est mon église, je reste dans cette église, tu as obligation de fidélité vis-à-vis de cette église. Tu as obligation de respect des activités vis-à-vis de cette église. Si tu sors de l'église, alors tu fais quoi? Tu t'exposes. Tu t'exposes dans le sens où l'église, c'est un ensemble. Dieu a une grâce sur l'église. Dieu a quelque chose qu'il fait de particulier dans la vie de tous les membres de cette église. Et moi, je sais, dans cette église-là, les gens n'ont pas de problème. Je te dis, ça, c'est une particularité que Dieu donne. La prospérité et le partage. Il n'y a jamais de malheur bizarre qui arrive aux gens. On ne croit même pas à ça. Nous, on ne croit pas au malheur. Ici, là, on ne croit pas au malheur. Le malheur atteint souvent le juste. Dieu l'en délivre toujours. Nous, ce verset, on a mis entre parenthèses. On a pris, aucun malheur n'atteindra le juste. C'est un choix. Il y a deux versets dans la Bible. Choisis pour toi. Alléluia. C'est dans la même Bible, il y a deux. Moi, j'ai pris l'autre. Toi, tu... Le malheur atteint souvent le juste. Que Dieu t'aide. Alléluia. Donc, il est important de rester dans la maison pour ne pas que les calamités te touchent. Ça veut dire quoi? La fidélité. Ça ne veut pas dire venir s'asseoir à l'église matin, midi, soir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je veux dire, il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle dans ton engagement vis-à-vis de l'œuvre, dans ton engagement vis-à-vis de ce qui se fait dans l'église. Il faut que tu ne sois pas loin. Même quand tu es en voyage, il faut que si tu es à un poste de responsabilité, que tu puisses faire ton travail. Si tu es en train de faire autre chose, mais tu ne peux pas abandonner ton poste. Fidélité, ça veut dire qu'on ne peut pas aller là, non, c'est pas ce que je viens de vous dire, mais vous devez être là, on doit pouvoir compter sur vous. Moi, il y a des gens ici, même s'ils ne sont pas là trois dimanches, je sais qu'ils sont là parce que je leur fais confiance. Je sais qu'ils ont toujours été là, je sais qu'ils ont toujours été présents parce que c'est des hommes de confiance, c'est des hommes qui ont peut-être eu des empêchements, mais c'est des gens sur qui je ne peux pas avoir une, c'est-à-dire même quand ils ne vont pas donner l'accord, je les programme dans les activités parce que je sais qu'ils sont là. Voilà. Alors, la grâce de Dieu sur l'œuvre, sur le ministère, nous accompagne partout où on est. C'est-à-dire, quel que soit là où tu es, la grâce qui est sur cette église va te suivre à cause de ta fidélité parce que tu es attaché. Je vous ai dit, dans la vie, tout ce qui marche est attaché. Il n'y a rien que tu peux observer dans cette salle qui marche, qui n'est pas connecté. C'est tout ce qui est connecté qui marche. Ce qui ne marche pas n'est pas connecté. Et un homme qui n'est pas connecté est un homme qui ne marchera pas. C'est pourquoi je dis, si vous avez décidé d'être là, soyez là comme Rahab a été là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle est restée dans la maison, elle a été sauvée. Lorsqu'elle a reçu le salut, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé sa vie. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Dieu a changé sa vie. Dieu a envoyé sa vie dans une autre dimension. C'était la même Rahab, mais dans une dimension différente. Vous savez, les dimensions changent en fonction de nos obéissances. David, dans les champs, et David au palais, c'est le même David, mais c'est deux dimensions différentes. Rahab a changé de dimension. L'un des espions qu'on appelait Salomon l'a épousé. Le jour où elle était délivrée, c'était le dernier jour de sa prostitution. On l'a épousé. Et ils l'ont épousé. Et Salomon et Rahab ont donné naissance À qui? À qui? Non. À qui?
Wow. À Obed.
Ils ont donné naissance à un enfant qu'on appelle Obed. Obed a donné naissance ensuite à... Non, ils ont donné naissance d'abord à Boaz. Merci. Le mari de Ruth. Et Boaz et Ruth ont donné naissance à Obed. Et Obed a donné naissance à Jesse, à Isaïe, qu'on appelle Jesse aussi. En anglais, ça veut dire Jesse. Hein? Le papa de David. Et ensuite, ils ont donné naissance à David. Et Jésus est petit arrière-petit-fils de David. Donc, une prostituée qui, par son obéissance, a fait quoi? A forcé son entrée dans l'alliance abrahamique. Tout peut arriver. C'est la grand-mère de Jésus. Arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Une prostituée. Ça veut dire quoi? Si Jésus, le Sauveur, peut accepter qu'une prostituée entre dans sa lignée, tout peut se passer dans ta vie. Je dis tout peut se passer dans ta vie. Ce matin, je veux que tu dises tout est encore possible. De toi, le prochain patron de la Côte d'Ivoire peut naître. Je dis, quand Dieu retarde à venir dans la vie d'un homme, c'est parce qu'il veut apparaître grand. Oui, quand il tarde, c'est parce qu'il veut apparaître grand. Si tu es là, ne perds pas espoir. Rahab n'était rien. Elle était une prostituée. Bien que, bien sûr, elle ait des trucs dans la société, mais elle avait une dualité. C'était une femme abattue et détruite par son estime de soi. Mais elle a su, en situation de crise, saisir les opportunités qui sont présentées à elle pour donner une direction à sa vie et entrer dans l'alliance. Je suis venu te dire ce matin que c'est possible pour toi. Tu as fait peut-être les mauvais choix au départ, mais Dieu peut changer ces choix-là en bien. Tu sais, il n'y a rien qui est éternel. Ce que tu es, ce que tu vis maintenant là, ça peut changer. La maladie que tu portes peut disparaître. Tout dépend du degré de ta foi. Et aie la foi jusqu'à ce que tu disparaisses. Dans tous les cas, si tu disparais, même avec cette foi-là, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu auras eu le mérite d'avoir cru en Dieu jusqu'au bout. Le Dieu d'Abraham ne te décevra jamais. Il ne l'a jamais fait pour un homme. Et tu ne seras pas le dernier avec qui il le fera. Je veux t'encourager ce matin. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la souffrance? Parce que regardez la situation de Rahab. Rahab aurait pu abandonner. Mes frères, beaucoup de gens ont abandonné. Pourquoi? Parce que leur confusion, leur incapacité de comprendre la situation a fait qu'ils ont abandonné la lutte. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont attendu le miracle, ils ne voient pas, ils ont compromis. Je suis venu te dire ce matin, ne baisse pas les bras. Ça peut être difficile. Tu peux ne pas comprendre. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cette situation est comme ça? Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi malgré tout, c'est comme ça? Mais je vais te dire, Dieu a la réponse. Et ce matin, il vient te dire que c'est possible. Il sait pourquoi la chose est comme ça. Il changera ta vie. N'abandonne pas. Dis à ton frère, n'abandonne pas. Je dis, n'abandonne pas. Tu ne seras pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une situation que Dieu n'est plus au contrôle de la situation. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas. Parce que beaucoup de gens, quand ils ne comprennent pas, ils se posent des questions, ils ne trouvent pas de réponse. Bon voilà, Dieu ne doit plus être au contrôle. Maintenant, un certain langage vient dans leur bouche. Et d'ailleurs, les autres font. Et d'ailleurs, les autres, ils vivent comme ils veulent. Il n'y a rien qui arrive à leur vie. Dans tous les cas, je m'en fous. Je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Si tu es là et tu es dans cette situation ce matin, c'est à toi que je m'adresse. Je dis, refuse de perdre espoir au nom de Jésus. Parce que ce qui a été la vie de l'autre n'est pas ta vie. Là où il est passé, il n'est pas mort. Toi, si tu passes là, on ne sait jamais. Voilà comment Satan trompe les gens. On n'a pas les mêmes destinées. On n'a pas les mêmes destinées. Je connais des gens qui disent, oui, moi je m'en fous. Dans tous les cas, moi ce qui arrive, ça va arriver. Moi j'ai attendu jusqu'à ce que je vois rien, pasteur. Où je suis là? Je suis devenu très fragile. Hein? Pasteur, je te dis, je te mets en garde. Dans tous les cas, tu vas m'entendre. J'ai dit, je t'entends comment il dit. Ah, pasteur, moi je t'ai dit, si tu me vois avec un ventre devant, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a plein ici à l'église qui font ça, mais on voit et puis il n'y a rien. Mais frère, tu ne peux pas dire, il faut et puis il n'y a rien. Chacun a sa vie. Alléluia. C'est vrai. Tu ne peux pas tuer quelqu'un qui a commis une erreur. Parce que c'est juste une erreur. Dieu, il pardonne toujours. Mais ce que je suis venu te dire ce matin, ne commets pas l'erreur là.
Parce que ton cas peut être différent. Il faut attendre.
Patience un peu.
Un tout petit peu de temps. Dieu fera pour toi ton miracle. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On se lève. On va se lever pour prier. Je veux que tu aies la foi en Dieu de nouveau. La foi marche. La foi marche. Est-ce qu'on peut dire avec moi, la foi marche? Ne perds pas espoir. Quelle que soit la situation, crois en Dieu jusqu'au bout. Lève la main vers le ciel et prie. Parle à Jésus. Ne fais pas compromettre. Faut pas compromettre. Dieu va t'aider. Je te dis qu'il va t'aider. Il viendra à ton secours. Au nom de Jésus. Il a fait pour Rahab. Il le fera pour toi. Accepte simplement de croire en Dieu et de mettre un cordon de cramoisi et de garder les pieds dans la maison, de te laisser planter. Tout changera pour toi. Alléluia. Fais la promesse au Seigneur d'attacher le cramoisi et de rester.
Oh Dieu.